Vous écoutez Canal Sud sur le 92.2 de la bande FM, ça c'est à Toulouse, partout ailleurs dans le monde, c'est sur canalsud.net. Il est midi et demi, l'heure d'un magazine exceptionnel. Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key into life, let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Give it in and in and do 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 do.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On poursuit notre petite série d'émissions qui étudie des histoires coloniales et qui arrive jusque en France, bien souvent. On a parlé dans une précédente émission de l'assassinat des lois Machoro en Nouvelle-Calédonie et Marcel Nonaro. Voilà, en cette année où la Nouvelle-Calédonie va connaître un référendum pour son indépendance.
Oui, ce sera le 4 novembre, depuis la dernière émission, ça a été officialisé la date de cette consultation.
Et on reviendra à la Nouvelle-Calédonie parce que on a des choses à vous dire sur le parcours de certains hommes d'État français qui, au moment de la répression dans les années 80 des luttes des Kanaks, étaient particulièrement actifs, ont eu une place centrale dans l'appareil de répression et qu'on va retrouver par la suite dans l'appareil sécuritaire français, à Paris pour être précis, et on vous en reparlera. Donc ça c'est un peu de teasing pour une prochaine émission, mais aujourd'hui on va s'intéresser à un autre parcours, à un homme qui est passé en Indochine, en Algérie, à La Réunion, à l'époque où il y avait des stérilisations forcées de femmes, ensuite qui a été préfet en Guadeloupe en mai 67 notamment. Voilà, on arrive pas loin des commémorations de mai 68 en France, et il y a le mois de mai, ça veut dire c'est d'autres souvenirs dans d'autres endroits. Et donc notamment, on va revenir amplement dans cette émission sur le massacre de mai 67 en Guadeloupe. Et puis cet homme, il finira notamment, cet homme, il va finir sa carrière dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Voilà, on a l'habitude c'est assez souvent qu'on parle de policiers, qu'on parle de justice, on s'intéresse rarement à des préfets. Aujourd'hui, on va parler du préfet Belotte, et qui a suivi ce parcours. Pour en parler, on est avec Mathieu Rigou. Salut Mathieu.
Salut.
Voilà, Mathieu, tu vas pouvoir un peu nous présenter le travail que tu as mené récemment. Tu t'es plongé dans les archives de ce préfet. Oui. Et on va suivre dans cette émission un peu le parcours de cet homme. Peut-être tu peux nous parler d'abord un peu de comment tu as travaillé
ces
là-dessus.
Les archives, ouais. Du coup, l'année dernière, autour de mai 2017, il y a eu à différents endroits des volontés de creuser un peu plus, et sur la mémoire, mais en fait sur un travail historiographique sur le massacre de mai 67. Et du coup, Elsa Dorlin, qui est philosophe et on peut dire historienne d'une certaine manière, organiser un colloque sur ces questions-là à Paris 8, et on a décidé ensemble d'aller creuser. On avait la connaissance de ces archives, les archives Belotte. Il y avait très peu de gens qui avaient bossé dessus, et du coup, on s'est dit que ce serait l'occasion d'aller mettre le nez dedans. Et effectivement, c'est un fond assez... la fascination pour l'archive, ça fait dire des fois extraordinaire, mais en fait macabre et horrible. En tout cas, pour écrire cette histoire, pour reconstituer cette histoire, c'est un fond très très important. qui est conservé à la bibliothèque de Sciences Po à Paris, et qui est conservé là-bas notamment parce que, alors bon, ça c'est un, y a quand même pas mal de préfets qui quittent à chaque fois leur poste avec une partie des archives. ils ont pas le droit, mais c'est un truc assez classique, pour plein de raisons, hein, parce que tu veux avoir les documents qu'il y a dedans, parce que tu veux pas les filer à celui qui va te suivre, parce que y a des preuves pour plein de choses qui peuvent te servir ou te desservir dedans. Et voilà. Et du coup, à la fin de sa vie, il les a filés à la bibliothèque de Sciences Po. Et la bibliothèque de Sciences Po, te permet d'y avoir accès, quoi, sans trop de problèmes. Et donc, on peut aussi remercier l'archiviste qui a fait ce taf là-bas. Voilà. Et du coup, dans ses archives, il y a des documents liés aux différentes époques de sa vie dont tu as parlé tout à l'heure. Donc sa période en Indochine, sa période en Algérie, il y a très peu de choses sur la période à La Réunion, mais aussi, enfin, il y avait un peu plus que ce que j'en ai sorti, mais parce que bon, c'était pas directement le sujet, mais du coup s'il y a des gens qui veulent travailler sur Belote et La Réunion, il y a encore des choses à y trouver. Il y a une grosse partie de documents sur la période en Guadeloupe, et il y a un peu de trucs sur la Seine-Saint-Denis au début des années 70.
Alors peut-être on va prendre un peu la chronologie historique du parcours de Pierre Belote. Donc t'as dit c'est un il était peut-être pas préfet à l'époque, je sais pas si en Indochine.
Non, on va reprendre cette histoire-là. Peut-être juste on a résumé son parcours, mais peut-être on n'a pas dit assez en quoi c'était intéressant. Ce préfet-là, moi notamment pour mon travail, mais en fait pour pas mal de luttes en cours, il est exemplaire d'un mécanisme qui est au centre du système sécuritaire, et qui est le fait que le pouvoir expérimente des formes répressives dans les colonies et à travers des répertoires militaires. C'est-à-dire que la guerre coloniale sert de grand laboratoire pour inventer des nouvelles techniques de contrôle de la population, en fait d'abord des techniques de guerre dans la population que eux appellent la contre-insurrection. Et en fait, dont il s'agit en général pas juste de réduire une insurrection, mais bien d'écraser un peuple et pour le soumettre en lui faisant la guerre. Et donc, c'est des formes de guerre policière. Et en général, quand on travaille là-dessus, on suit un petit peu la carrière des militaires. Et ben là, on a un préfet qui nous montre comment ces répertoires-là ont été pendant tout au long de sa carrière. Donc, il est en Indochine parmi les gens qui vont participer à la fabrication de la nouvelle doctrine de contre-insurrection française, qui est un objet qu'on dit révolutionnaire, hein, dans l'histoire des doctrines de contre-insurrection. On pourra voir pourquoi. Et à travers toute sa carrière, on voit le déplacement de cette doctrine, son déploiement dans différents contextes, donc on l'a dit à La Réunion, en Guadeloupe, et puis son importation, on pourrait dire en métropole, hein, enfin, il y a une continuité impériale, hein, même s'il y a eu des indépendances, il y a des restructurations néocoloniales, et du coup l'importation de ce répertoire de contre-insurrection, son adaptation, son réagencement, sa traduction, pour la constitution des premières unités de police contre-insurrectionnelle, on pourrait dire, en fait, pour les premières unités de BAC au début des années 70 en Seine-Saint-Denis. Et donc ce personnage-là, mais en fait tout son parcours historique, est assez exemplaire, hein, de cette thèse et de ce fonctionnement du système sécuritaire qui puise en permanence dans les répertoires de la guerre coloniale pour créer des nouvelles formes de pouvoir applicables aux classes populaires en général, et en particulier aux classes populaires issues de la colonisation, ou on peut dire non blanches. Alors, ce préfet, Pierre Belote, il est né à Neuilly-sur-Seine en 1921, il est licencié d'histoire et géographie, et il entre dans le corps préfectoral en 1944, c'est-à-dire sous l'occupation. Et en fait, comme une partie importante des cadres de l'État français et de son armée et de sa police, Belote va être reconduit dans le nouvel État à la Libération. Donc c'est-à-dire qu'il y a une, on appelle ça la continuité de l'État, il y a une continuité des cadres, des pratiques, des idéologies, par-delà les restructurations. Alors il va être nommé sous-préfet à 26 ans en 1947, et il est élevé seconde classe en 1950, et il rejoint le cabinet de Jean Letourneau, qui est ministre chargé des relations avec les États associés. C'est donc là que commence sa carrière de pacificateur colonial. Du côté administratif, hein, on l'a dit, c'est pas un militaire. Et c'est aussi ça qui est assez intéressant. À partir de décembre 1950, il accompagne le général Delattre, qui est un des très très grands cadres de l'armée française, en Indochine. Et il l'accompagne avec les généraux Salan, Allard, Beaufre, que qu'une partie des gens connaissent, parce que ce sont notamment des, parmi les grands ingénieurs de cette doctrine de contre-insurrection, et parmi les militaires séditieux de la guerre d'Algérie quelques années plus tard. Donc c'est des hauts cadres qui sont très influents sur la culture militaire de l'époque, et le tout jeune Bolot va se fabriquer à côté d'eux. Alors il fait très rapidement là, un passage au poste de secrétaire général de la Guadeloupe en 51-52. Bon, on verra, ça a du sens pour ce qu'on va voir après. Et il retourne en avril 52 au cabinet de Le Tourneau, qui est devenu haut commissaire pour l'Indochine. Et donc à ce poste-là, il fait déjà le lien entre la métropole et la colonie, c'est-à-dire qu'il assure déjà une sorte de courroie de transmission administrative entre des pratiques et des idées de guerre coloniale et le bloc de pouvoir en métropole. Donc là, il est toujours auprès du général Raoul Salan, qui commande les opérations depuis la mort du général Delattre de Tassigny. Et donc c'est à ce moment-là que Bolot commence à se passionner pour les services spéciaux. Et il va faire partie de ces cadres civils qui vont participer à la création de la doctrine de contre-insurrection. Alors là, je fais une petite aparté, une parenthèse. Dans les doctrines de contre-insurrection, on a en général, enfin on a toujours deux fractions idéales typiques qui font semblant de s'affronter, mais en fait qui collaborent en permanence. On pourrait les appeler, on pourrait dire que d'un côté il y a un peu le hard power, on pourrait dire aujourd'hui on dit les faucons, donc des gens qui sont focalisés et obsédés par l'usage de la terreur d'État, et donc de l'écrasement de la population rebelle, l'écrasement par la force, par la violence. Et puis de l'autre côté, on a des fractions qu'on pourrait dire plutôt soft power, ou qu'on peut appeler des gestionnaires, qui eux ont tendance en général à insister sur la nécessité de laisser le pouvoir contre-insurrectionnel aux civils, de pas le laisser se faire dévorer par les militaires, et d'encadrer la contre-insurrection par des dispositifs qu'on appelle de conquête des cœurs et des esprits, de heart and mind, et qu'on dit aussi dans la langue militaire de guerre et d'action psychologique. Alors quand on observe l'histoire de la contre-insurrection, on se rend compte qu'à toutes les époques et dans toutes les aires géographiques, en fait il y a une combinaison de ces deux répertoires-là, la terreur d'État et l'action psychologique, l'action et la guerre psychologique, et que ces fractions en fait en permanence travaillent ensemble, mais elles s'affrontent, elles se distinguent, il y a un champ idéologique et pratique de la contre-insurrection à la tête des États, dans les armées et même jusqu'en bas des armées, et donc il y a des enjeux, c'est un champ, il y a des intérêts politique, de carrière, même économique, sur le fait de défendre plutôt ce pôle soft power ou plutôt ce pôle hard power. Mais bien entendu, toutes les doctrines de contre-insurrection articulent du soft et du hard power. Et du coup, Bolot est l'un des premiers ingénieurs français du côté du soft power, enfin qui se polarise du côté du soft power, et qui du coup, là, dès cette expérience en Indochine, se pose comme un cadre civil et administratif face aux militaires pour dire non, la contre-insurrection, il faut que ça reste dans les mains des civils. Et alors du coup, il ne faut pas du tout le prendre pour un angélique ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui, enfin on va revenir dessus, mais c'est quelqu'un qui défend l'usage de la torture, l'usage de l'écrasement, mais il dit qu'il faut que ce soit encadré par des civils et par l'administration, et qu'il ne faut pas laisser la contre-insurrection déborder vers le coup d'État militaire, puisque c'est une propension de ces doctrines-là.
C'est une manière aussi d'avoir une contre-révolution plus complète, plus totale, que peut-être les militaires ne pourraient pas aborder tous les aspects que des civils vont pouvoir aborder. Il y a cette idée-là un peu derrière.
Bah, je pense que justement, ça dépend des configurations sociales et historiques. Il y a des époques où les États, les classes dominantes, laissent émerger des fractions militaires et leur laissent prendre le pouvoir grâce à ces doctrines-là. C'est ce qui s'est passé au Brésil, c'est ce qui s'est passé en Argentine, et c'est ce qui s'est passé en mai 58 en France aussi, hein, puisque la 5e Constitution est le fruit d'un coup d'État militaire et de la prise de pouvoir par les fractions militaires de ces doctrines-là. Et qu'on amène De Gaulle au pouvoir dans ce cadre-là. Et donc voilà, il y a des fractions à l'intérieur même des classes dominantes qui se positionnent différemment selon les configurations, selon les situations, avec ces fractions militaires, ces fractions civiles. Et voilà, c'est pas, y a de la détermination, mais il y a aussi de la contingence. Il y a des choses qui ne sont pas prévues. Ça réagit dans ce cadre-là. Et du coup, je reviens un peu sur l'Indochine. Donc en Indochine, sur le terrain, on laisse les mains, l'État laisse les mains libres à notamment des sous-officiers. Donc on pense à Trinquier, à Lacheroy, des gens comme ça qui ont laissé leur nom un petit peu dans l'histoire, pour expérimenter des formes de guerre dans la population, des formes de guerre contre la population, et qui vont articuler toutes sortes de dispositifs. Donc des dispositifs de déplacement de population avec internement dans des camps, des dispositifs de bombardement des zones dépeuplées, des dispositifs d'action et de guerre psychologique, de la propagande, de la fausse rumeur. On utilise à l'époque beaucoup la radio, les tracts aussi. L'utilisation d'unités spéciales pour directement éliminer des cadres de la guérilla, de la rébellion. Et puis ces unités spéciales vont aussi servir à faire de la contre-guérilla, c'est-à-dire on va faire un attentat ou massacrer un village et dire que c'est l'ennemi Viet Minh qui a procédé à ce massacre-là. Voilà, c'est des dispositifs qui sont souvent articulés, enfin qui sont toujours articulés avec la question de ce que l'armée appelle le renseignement, et donc en fait avec des pratiques de torture où on justifie ces pratiques de torture pour dire qu'il faut acquérir, il faut obtenir le renseignement sur les personnes arrêtées pour pouvoir démanteler l'OPA, l'organisation politico-administrative, qui est en fait les appareils politico-militaires de la guérilla. Mais on se rend compte que dans la pratique, en fait, la plupart des guérillas mettent en place des systèmes de défense face à ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrêté, bon, on lui demande de tenir quelques heures et pendant ce temps-là, les positions se déplacent. Et qu'en l'occurrence, on a une utilisation industrielle de la torture, bien plus que pour obtenir du renseignement, mais pour écraser une population, pour la terroriser, pour la soumettre. Voilà, on a l'ensemble de, enfin toute une série de ces dispositifs-là qui existent hein, dans l'histoire coloniale avant l'Indochine, mais qui sont mis en système pendant la guerre d'Indochine par l'armée française, et c'est vraiment il y a un saut qualitatif. On parle d'une révolution technologique dans l'art d'écraser les peuples, et notamment lié au dispositif d'internement massif de population. Et donc Bolot se construit comme ingénieur civil de la contre-insurrection dans ce cadre-là. Par exemple, dans ces archives, on trouve une instruction sur la conduite de l'action politique dans le cadre de la pacification au Vietnam, qui lui permet de créer un cinquième bureau du commissaire aux armées. Voilà, et c'est dans ce cadre-là qu'il commence déjà à voir émerger la potentialité de ces doctrines-là à donner le pouvoir aux militaires. Et que du coup, lui essaye de se positionner du côté des civils pour dire on va continuer à développer ces techniques, ces technologies, mais en faisant en sorte que le pouvoir civil garde la main dessus. Alors ça, c'est son expérience en Indochine. Il quitte l'Indochine début 53. Il part pour différents cabinets ministériels parisiens. Et puis, il est nommé sous-préfet de première classe en 1954 à Strasbourg. Et c'est à sa demande, hein, c'est lui qui demande d'être affecté en Algérie. Et il dit pour continuer son travail de pacification. Donc on est bien face à quelqu'un qui est passionné, qui est fasciné, qui est obsédé par la contre-insurrection.
Ok, donc peut-être on va
se faire une première pause là, ouais. C'est déjà assez dense. Tu partais en Algérie depuis l'Indochine, enfin on partait, on suit les traces de ce sinistre personnage qui est Pierre Bolot, et donc on passe de l'Indochine à l'Algérie. Bah, peut-être c'est le moment de se passer ce morceau Tayara Safra qui parle qui évoque, hein, si je dis pas de bêtises Mathieu, les bombardements en napalm en Algérie. On pense souvent qu'ils ont été réalisés essentiellement par les Américains et au Vietnam, mais c'est pas le cas. T'as un mot à dire sur ce
oui,
titre?
Oui, exactement. Bah, c'est un chant qui est pas très connu, mais qui se transmet notamment entre femmes. C'est un chant de femmes pendant la guerre de libération algérienne. Tayara Safra, c'est l'avion jaune. Enfin, il y a aussi un jeu de mots avec l'oiseau jaune. Et du coup, ça désigne ces avions qui bombardaient au napalm, notamment dans les Aurès, pendant la guerre de libération algérienne. Sur le même mode, ça avait été expérimenté en Indochine, et c'est vraiment sur le même mode. C'est-à-dire que on va arracher les populations à leur terre, on les met dans des camions, on les interne dans des camps d'internement, où en plus elles sont torturées, où c'est d'un point de vue sanitaire, social, c'est atroce. Et pendant ce temps-là, du coup, on considère que ceux qui restent sur ce territoire-là sont forcément
des combattants.
Et donc on bombarde au napalm. Et bien entendu, ça génère des massacres, et puis en plus souvent il reste des villages, c'est de l'ordre du massacre industriel, et c'est théorisé, rationnel, c'est pas du tout des débordements de quelques militaires hallucinés.
Thank you.
Yara Safra sur Canal Sud, l'Avion Jaune. On poursuit cette émission, la première d'une série de 3 ou 4 émissions consacrées à des parcours coloniaux, à des parcours de figures, hein, d'acteurs de l'action coloniale française. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on parle avec Mathieu Rigouste, chercheur en sciences sociales. On parle du parcours de Pierre Bolotte. On l'a quitté en Indochine, mais voilà qu'il s'envole vers l'Algérie à sa demande. Algérie, évidemment, encore française à l'époque. On est au début des années 50, hein, c'est ça, Mathieu ?
Oui. Tu voulais dire un mot ?
Non.
Donc du coup, on a dit, il revient d'Indochine comme un ingénieur en contre-insurrection, et c'est lui qui demande à être affecté en Algérie pour continuer ce qu'il dit, son travail de pacification. Donc là, il va être nommé sous-préfet à Miliana de mai 55 à août 56. Miliana, c'est une région qui est située à 120 km au sud-ouest d'Alger. Et du coup, ça va lui servir vraiment de terrain d'expérimentation pour cette nouvelle doctrine qui est en constitution, ce nouveau répertoire de violence d'État qui a commencé à être systématisé en Indochine, et en fait où l'Algérie sert vraiment de... Bon, même plus, enfin, et de laboratoire à son industrialisation, mais aussi à sa montée en puissance comme doctrine d'État. C'est vraiment, ça se passe en quelques mois. Hein, on parle beaucoup plus des officiers Trinquier et Lachaurois, et notamment Lachaurois qui, en quelques mois, passe d'officier anonyme à cadre à l'état-major de l'armée. Enfin, c'est des carrières, c'est quasiment du jamais vu, hein, dans l'histoire de l'armée française, notamment parce qu'il se distingue... par sa rhétorique, mais aussi par sa connaissance de ce type de doctrine d'écrasement des populations, de guerre dans la population. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là, au moment où la doctrine de contre-insurrection, on appelle ça la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire, ce modèle français, devient doctrine d'État. On donne à Bolotte, parce qu'il s'y connaît super bien, Miliana comme terrain d'expérimentation de cette doctrine sur une région rurale, mais aussi avec des villes. Et du coup, lui dit que ça va lui permettre d'avoir la possibilité, j'ouvre les guillemets, la possibilité de mettre en action ce que m'avaient appris les affaires d'Indochine. Ça, c'est dans ses mémoires, elles n'ont jamais été publiées, mais bon, elles font partie des archives. Et du coup, sur ce terrain-là, il va transférer, réagencer toute une série de dispositifs de pouvoir qui avaient été élaborés en Indochine. Et donc, notamment, ce qu'on appelle les hiérarchies parallèles, dans ces doctrines-là, c'est des structures qui consistent à dire que, en se fascinant pour le Viet Minh notamment, et aussi pour les stratégies maoïstes, que la pieuvre communiste, en fait, manipulerait les populations en les enserrant, en les encadrant à travers des systèmes de hiérarchie parallèle, et donc qui seraient le parti, mais aussi le syndicat, l'association, la bibliothèque, etc. Et que du coup, qui disent, il faut faire pareil. Il faut que l'État français, il faut que l'État qui veut rétablir sa souveraineté sur une population, se donne les moyens de faire la même chose que l'ennemi, voire pire, et du coup d'encadrer la population avec un système de hiérarchie parallèle qui les prend depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Et du coup, il va expérimenter ça à Miliana, notamment à travers toute une série de structures d'action psychologique qu'on appelle, et notamment des services d'assistance sociale et de surveillance. C'est aussi une histoire sur laquelle il faudrait prendre beaucoup plus de temps, mais c'est une histoire qui va être importée en métropole aussi, toute l'histoire de l'assistance socio-culturelle, d'abord dans les bidonvilles, puis dans les quartiers populaires, hérite de cette histoire-là, et notamment le fait d'utiliser le service d'assistance socio-médicale comme un système de surveillance politique, on peut dire biopolitique, des populations. Donc ça, c'est quelque chose que lui expérimente notamment, il n'est pas le seul, hein, ça va s'expérimenter dans toute l'Algérie, mais qu'il expérimente à Miliana à cette époque-là. On va lui reconnaître un certain art dans ce domaine-là. Et donc, dans ses archives, on trouve une note qui est classée « très secret », ça c'est dans les classifications défense, et qu'il adresse aux commandants et aux officiers de Miliana le 11 juillet 56, donc on est vraiment en pleine guerre d'Algérie, où il dit « Je vous ai souvent écrit et répété verbalement que la guerre à laquelle nous sommes ici contraints et à laquelle nous répondons par la pacification est de celle qui met en cause la défense en surface. C'est-à-dire que tous les services publics et privés et chacune des formes de la collectivité nationale sont aussi engagés que les troupes proprement combattantes. » Et là, on a un des poncifs de cette doctrine de contre-insurrection, qui est de dire l'ensemble de la société doit être mise au service de la guerre contre l'ennemi intérieur, contre l'ennemi en général, et qui est en fait une théorie de la guerre totale. Ça, pareil, on pourrait encore faire une émission sur ça, mais les doctrinaires français de la contre-insurrection, et notamment des généraux très connus, hein, comme Beaufre ou Delattre, on nous apprend à l'école que c'est des héros de la résistance, etc. Et ben, ces gens-là ont justifié ce type de doctrine de guerre totale en allant puiser directement dans le répertoire nazi. Et on cite, ils citent eux-mêmes Ludendorff, par exemple, qui est le théoricien pré-nazi d'un livre qui s'appelle La guerre totale. Mais on cite aussi Goebbels allègrement pour dire Goebbels était un super technicien de la guerre psychologique. Et donc, à ce titre, c'était un bon technicien, il a des bonnes techniques, on peut les reprendre pour lutter contre le monde communiste, comme on dit à l'époque, pour lutter contre la subversion, pareil avec les guillemets pour dire que c'est leur terme de l'époque.
On a eu des exemples récents dans l'histoire en France au moment de l'état d'urgence, le dernier état d'urgence, où pour lutter contre le terrorisme islamiste, il y a eu, on a demandé à des médecins, à des écoles de faire de la surveillance, de la radicalisation, et puis on a eu des déclarations de militaires pour inciter la population dans son ensemble, en complément de l'action militaire sentinelle de surveillance du territoire, de s'engager dans cette guerre en tant que société contre le terrorisme.
Exactement. D'ailleurs, on peut noter en fait que quand on regarde le déploiement du système sécuritaire qui pioche très très régulièrement dans ces répertoires-là, maintenant on commence à le savoir pour le dispositif d'état d'urgence qui lui-même a été fabriqué dans la guerre pour la contre-révolution face à la guerre de libération algérienne et qui lui aussi participe de ça. Il s'agit de dire on met tous les moyens de la société en œuvre pour faire la guerre à telle subversion. Et alors je reviens sur Bolotte, je citerai l'archive après, il va préciser cette posture qui le caractérise, et il dit, ouvrez les guillemets, « c'est cela qui est difficile, et tant que cela n'est pas fait, rien n'est fait ». Donc il parle du contrôle de la population. « Le milieu, ça veut dire la population, le milieu doit refuser sa confiance à ceux qui ne peuvent vivre que sur lui, c'est-à-dire aux rebelles. Les forces de l'ordre n'ont besoin du même milieu que dans la mesure où elles l'amènent à ne plus nourrir l'ennemi. C'est notre principal avantage sur cet ennemi, et nous apportons à la population infiniment plus qu'elle ne peut nous donner. » Alors, ça c'est une archive qui s'appelle « Notes aux commandants et officiers » de juillet 56, et donc qui est dans le fond d'archives à Sciences Po. Bollot va commencer à organiser du coup des services de renseignement et de ce qu'il appelle la pacification préventive, ce qui est aussi assez intéressant parce que c'est un des dispositifs dont on entend de plus en plus parler dans le système sécuritaire, de pouvoir prévoir la menace et du coup d'agir en amont, d'arrêter, d'interroger des gens avant qu'ils soient passés à l'acte. Et donc Bollot va créer un bureau militaire dans la sous-préfecture et il va mettre en place des unités mixtes militaires et policières. Et ça aussi, c'est un des grands axes de développement du système sécuritaire. L'hybridation entre les domaines de la guerre et du contrôle, entre les répertoires militaires et policiers. Bollot dit explicitement qu'il faut développer des infrastructures pour quadriller le territoire, qu'il faut fournir du travail aux populations. C'est intéressant aussi, hein. C'est-à-dire fournir du travail aux populations, c'est une méthode de contre-insurrection. Et qu'il faut, ouvrez les guillemets, taper fort dès les prémices des résistances collectives. Alors là, j'insiste dessus parce qu'on va y revenir pour comprendre ce qui s'est passé en Guadeloupe. Mais donc, on a là un ingénieur civil de la contre-insurrection qui considère, dès l'Indochine et l'Algérie, que dès qu'on est en face d'un signe, d'un pré-signe de radicalisation, on dirait aujourd'hui, hein, d'organisation, de mouvements sociaux, d'une conscience politique de libération. Ce qui peut être, ils interprètent n'importe quel signe dans ces termes-là, qu'il faut tout de suite taper très très fort. Et alors là, ça peut faire penser par exemple à ce qui se passe au niveau du procès Tarnac, où il s'est passé des choses comme ça, où on a tapé très très fort avec des protocoles contre-insurrectionnels face à des choses qui semblaient à des ingénieurs en contre-insurrection sécuritaire comme étant les signaux faibles, les premiers signes de nouvelles menaces subversives, etc. Et du coup, on voit ce que ça donne. Ça permet de déployer des protocoles issus des répertoires de la guerre sociale contre des formes de mouvements sociaux, contre des pratiques de résistance, etc. Et donc c'est à cette époque que Bollot prend l'habitude de cibler tout signe de ce qu'il appelle la subversion pour alerter ses supérieurs. J'insiste sur alerter, c'est les termes qu'il utilise, et on va voir que c'est important pour la suite. Donc là on revient dessus, on a des sources qui montrent, comme je disais tout à l'heure, que Bollot s'oppose pas du tout aux violences d'état extrêmes qui sont engendrées dans le cadre de la contre-insurrection, comme la torture ou les systèmes de disparition forcée. Lui, son objectif, c'est que ces dispositifs-là soient contrôlés par un pouvoir civil. Et donc il envoie une lettre confidentielle au Premier ministre depuis Miliana en février 56, où il évoque, outre entre guillemets, l'intégration et la fédération, une troisième solution pour l'Algérie. Et il dit, ouvrez les guillemets, cette troisième solution, c'est celle qui, fondée sur tous les moyens d'un pouvoir fort, peut-être même dictatorial, comporterait à la fois le retour à l'ordre et le véritable progrès économique et social. Dans l'état actuel du système parlementaire et du jeu des influences qui le caractérise dans notre pays, une semblable tierce solution est impensable. En gros, Bollot suggère qu'il faut, plus que déstabiliser la 4ème République, qu'il faut la renverser et la remplacer par un pouvoir fort. C'est exactement ce qui va se passer le 13 mai 1958 et qui va mener à la mise au pouvoir du général de Gaulle et à la genèse de la 5ème constitution de la République française, qui est un système de pouvoir, un texte constitutionnel traversé de toutes parts par l'idéologie contre-insurrectionnelle et par cette idée qu'il faut absolument pouvoir mettre en œuvre toutes les forces sociales en direction de la guerre contre l'ennemi intérieur à l'époque communiste. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir suspendre en permanence la séparation théorique des pouvoirs pour mener la guerre. Et donc ça se traduit par l'article 16, par le 49.3, etc.
Et pourtant, on est là dans... Bollot, c'est pas l'aile la plus dure de cette doctrine, quoi.
C'est l'aile civile, mais on peut dire pas la plus dure peut-être dans le langage, mais là, comme on vient de le voir dans ce que j'ai cité, c'est quelqu'un qui justifie la terrorisation, qui justifie la torture. C'est juste que lui dit qu'il faut que ce soit tenu par des civils. Et en fait, à toutes les époques, on a des civils qui tiennent ce discours-là, qui travaillent avec des militaires et qui, ensemble, font fonctionner ces machines. Et là, donc, on arrive, donc, il est reconnu pour cette compétence. Et il est même soutenu, et donc il est promu hors classe en juin 56, et puis on le met directeur du cabinet de Ligam. Ligam, c'est un préfet hors sol, en août 56. Et donc il dit...
Juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est quand même important de le souligner. Évidemment, là on fait le parcours de Pierre Belotte, c'est intéressant de suivre ce parcours individuel, mais évidemment qu'il est soutenu en permanence par l'État et par la machine d'État dont il est un serviteur zélé, on a bien compris. C'est pas un homme isolé, et il a un parcours d'ailleurs, il sera jamais abandonné, on va le balader comme ça de poste-clé en poste-clé.
Oui, les préfets, c'est vraiment les personnes, les premiers représentants de l'État, où que ce soit l'État, quoi.
Exactement, et on les démet dès qu'ils font des choses qui ne servent pas les classes dominantes, ou en tout cas le bloc de pouvoir. Et là, ils continuent à monter en puissance, parce que justement, on lui reconnaît cette compétence dans l'écrasement social et guerrier du peuple algérien. Donc voilà, je disais, il est nommé directeur de cabinet auprès du préfet Igam en août 56, et il dit « Ainsi me trouvais-je installé au cœur des problèmes de la guerre terroriste, du contre-terrorisme, et peut-être du rôle bizarre de certains militaires ». Fermer les guillemets. Et donc il arrive à Alger, et à Alger il va demander en permanence des renforts de police pour assurer la contre-insurrection, et il va assurer tout un système d'échange de pratiques et d'expériences entre Paris et Alger. Et donc là on en retombe sur quelque chose qui est assez intéressant, c'est que cette courroie civile, cette courroie préfectorale de transmission de dispositifs de guerre coloniale vers le contrôle policier en métropole. Voilà, et il dit, on a un adage du système sécuritaire et antiterroriste contemporain, c'est dans une lettre au préfet d'Alger, dans une lettre au ministre résident en Algérie, une lettre qui traite, ouvrez les guillemets, de lutte contre le terrorisme urbain, il dit, ouvrez les guillemets, qu'il faut créer un état permanent d'insécurité pour les terroristes et les contre-terroristes. Donc créer un état permanent d'insécurité, on dirait Poutine qui veut aller chercher les terroristes jusque dans les toilettes, comme il avait formulé. Donc ça c'est un adage, enfin c'est une logique rhétorique qu'on retrouve dans très nombreux supports de discours sécuritaires et dans la logique de la mécanique sécuritaire.
Oui, il dit aussi, c'est toi aussi qu'il citait dans un article que vous pouvez retrouver sur Bastanag, il dit aussi de toute façon, toute guerre antiterroriste est une sale guerre. C'est cette même idée là qu'il exprime à plusieurs reprises.
Et qu'il faut savoir la faire.
Faut savoir se salir les mains.
C'est ça. Et du coup, à Alger, là on va, j'en parle parce que ça va revenir pour la Seine-Saint-Denis à la fin de sa carrière. À Alger, Belotte met en place des patrouilles de 8 à 10 hommes chacune, je cite, réparties dans les 4, il appelle ça, quartiers sensibles de la ville. Il leur donne une mission de surveillance, et puis après il les fait passer à 40 patrouilles, de 40 patrouilles à 130. Il dit, entre guillemets, avec des effectifs plus réduits, 3 hommes et un gradé accompagnés d'un gardien de la paix, etc. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est d'expérimenter un prototype de commando de police, de commando policier. Et il insiste pour dire que ces commandos de police doivent être relativement autonomisés. Je souligne parce que c'est une des caractéristiques plus tard de la BAC et de choses qui nous concernent directement aujourd'hui. Pareil, il va développer tout un système de quadrillage de la Casbah à Alger, avec des opérations systématiques de contrôle, bien entendu de contrôle au faciès, et il met en place ce qu'il appelle des contingents de policiers en civil dans les quartiers les plus névralgiques. Donc voilà, avec de l'infiltration policière en civil, des choses qu'on connaît bien. Il dit que ces unités doivent circuler isolément, ignorées du public. Et voilà, il met en place en fait tout un modèle de pacification militaro-policière, racialisée et sexualisée, des quartiers colonisés. Et il va dire qu'en résumant cette politique, il la résume en disant qu'il faut atteindre la multiplication des actions contre les quartiers difficiles, avec la plus grande simultanéité possible, pour éviter autant que faire se peut de créer des abcès de fixation successifs. Voilà, on a l'impression de lire du Alain Bauer ou du Xavier Hofer aujourd'hui.
Et puis c'est vrai qu'à l'entendre, si on ne savait pas qu'on parlait de l'Algérie, on pourrait évidemment penser au contrôle des banlieues en France, quoi.
Exactement. C'est vraiment, c'est exemplaire de cette généalogie coloniale qu'il y a en amont du système sécuritaire. Il va mettre en place aussi des opérations de police éclair, il appelle ça, qui, ouvrez les guillemets, ont lieu chaque jour avec le concours de l'armée dans de nombreux quartiers de la ville, etc. En gros, il boucle des quartiers, il procède à des systèmes de contrôle au faciès, d'arrestation, d'interrogatoire, etc.
Est-ce qu'il y a d'autres aspects de son expérience algérienne que tu veux aborder avant qu'on passe peut-être
très vite,
à mai 67 en Guadeloupe?
Il participe notamment à l'établissement du dispositif de protection urbain, qui est le prototype de la bataille d'Alger en 57, enfin, qui est ce qu'on appelle la bataille d'Alger. C'est pas une bataille, hein, d'un côté il y avait l'armée et la police française, de l'autre côté il y avait le peuple algérien. Une bataille en général c'est deux armées. Mais en tout cas, et qui va être le prototype de ce qu'on appelle le mythe de l'excellence française en contre-insurrection. Et du coup, Bolot participe aussi à ça. Alors on pourrait rentrer dans les détails, mais peut-être qu'il faut avancer.
On peut se faire une petite respiration.
Allez, ça marche.
Et on y revient après.
Ça. Ouais. Allez, ça marche. Et donc, on part pour la respiration. On attaque vers la Guadeloupe.
Voilà.
Avec le groupe. Je te laisse présenter le morceau. Le groupe, c'est Choucage Mass Paris.
Ouais. Alors, du coup, c'est d'après leur nom, on peut deviner que c'est pas directement en Guadeloupe que ça a été fait, mais à Paris. Choucage Mass Paris, mai 67. Donc, qui un morceau d'hommage qui était aussi qui a été joué notamment en lors de commémoration de mai 67, lors des 50 ans du massacre de mai 67, à Paris, en Guadeloupe et à d'autres endroits. Voilà, on écoute ça. Choucage Mass Paris, c'est un morceau de Gros Cas.
Mai 67. Pour nous, c'est une date à douleur. 86 mois de Guadeloupe tombé en bas de la colonne. Premier là, Nestor, ils vivent comme nous longtemps en France, avant d'y entrer en pays, vrai qu'il faut s'y caméner. L'histoire, c'est toujours colonialiste qui écrit. Et yo porté mon œuvre pour Guadeloupe et intégrer tragédie là ça, en fond à Kabécha yo. Malheureusement pour yo, nous toujours là 40 ans après, qu'a détiré ça yo caché.
De bon matin, 6 heures matin, la loi débarqué à case en main. Tout ça qui t'en main. Tout ménage en main, maman. Y'a pas pour dire que nous fait mal, oh, pas pour dire yo que la j'ai nous, maman. Criez joie, criez tambouille, répondez, levez la feu, maman. J'arrive pas parce qu'à rebousse qu'il est moins 17 qui chèse, qui en cas en moins cher. Et Guadeloupe, et tout le monde en moins, qui est yo, qui est parmi en moins cher. Oui, c'est les juges en cas en moins, pour ceci, tout le monde qui m'en a mes amis. Yo prévois, menez-moi tribunal, les paquets, tout ça qui t'en moins, maman. C'est la pointe à fête, yo, tu viens n'est qu'on est ravette. Et Guadeloupe, y'a tout le monde en moins, qui est yo, qui est famille en moins cher. Y'a yo, c'est famille en moins, y'a tout le monde en moins. Pas laisser moi tout seul, pas laisser moi comme ça. Y'a tout le monde en moins, y'a famille en moins. Y'a tout le monde en moins, c'est famille en moins, pas laisser moi comme ça. Tout le monde en moins, qui est famille en moins, pas laissez-moi tout seul, pas laissez-moi comme ça, qui est tout le monde en moins, qui est famille en moins, qui est tout le monde en moins, c'est famille en moins, pas laissez-moi comme ça, qui est tout le monde en moins, qui est famille en moins, pas laissez-moi tout seul, pas laissez-moi comme ça, qui est tout le monde en moins, qui est famille en moins, qui est tout le monde en moins, c'est famille en moins, pas laissez-moi comme ça. Criez tout le monde en main, criez famille en main, pas laissez-moi tout seul, pas laissez-moi comme ça. Criez tout le monde en main, criez famille en main, criez tout le monde en main, c'est famille en main, pas laissez-moi comme ça. Criez tout le monde en main, criez famille en main, criez basse-tête en main, criez la pointe en main, criez tout le monde en main, criez famille en main. Seul. Pas laisser
mwen kon sa
Kriyo,
kriyo Ye tou moun ba mwen
Kriyo, kriyo
Akse mwen kon sa
Kriyo,
kriyo Ye fami ya mwen
Kriyo,
kriyo Ye tou ba mwen
Kriyo, kriyo Kriyo, kriyo
Si sel maten la lwa kazan mwen
Avec d'autres, nous que pas les autres des patrons qui voyaient chien ses nègres. Avec d'autres, nous que rappelons les autres pour 10% augmentation, travailler, trouver, ou traquer, compte un nègre marron. Avec d'autres, nous que songer ça qui prend clandestinité. Avec d'autres, nous que évoquer complot français fait pour juger Timon Guadeloupe, loin pays Ayo et famille Ayo. Avec d'autres, nous que parler des soutiens à Sartre et d'autres intellectuels français, pour les patriotes. Avec d'autres, nous toujours qu'est là, vous n'avez pas oublié. Songez, les 40 ans.
Voilà, vous êtes toujours sur Canal Sud et on est en train de discuter du parcours de Pierre Bolloté, ce préfet qui est passé de l'Indochine au 93 en passant notamment par la Guadeloupe et on vient d'évoquer à travers ce morceau mai 67, le massacre de mai 67. Alors contrairement à ce que je vous avais annoncé, c'était pas pour les 50 ans mais pour les 40 ans de mai 67. Je cache ma Paris avec ce morceau qui évoque les différents aspects de cette répression et de ce massacre. On a laissé Pierre Bolloté en Algérie, peut-être on n'a pas dit comment ça s'était terminé, son histoire algérienne, et puis on va voir un peu comment après il est passé vers d'autres départements, territoires d'outre-mer.
Du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, il avait proposé une sorte de déstabilisation de la 4ème République, et en fait, il participe effectivement au coup d'État du 13 mai 58, avec une prise de pouvoir militaire qui amène De Gaulle à la tête de l'État, qui crée la 5ème République. Et dès cette époque-là, je le dis parce qu'on va le revoir plus tard, il va être envoyé à Paris juste après, en septembre. On considère qu'il n'a pas été assez zélé. Quand on disait tout à l'heure que il faisait partie des fractions de gestionnaires, y a à cette époque dans l'État français toute une partie des classes dominantes et des états-majors qui considèrent que même cet homme-là est pas assez radical en termes d'écrasement des peuples. Il est renvoyé à Paris. Il va être muté en septembre 58 à La Réunion. Là, il va y passer 4 ans. Et donc, c'est dans ce contexte-là que lui développe, avec d'autres, bien entendu, comme tout au long de son histoire, une réflexion sur les manières de pacifier La Réunion. Et où, du coup, il va aller piocher dans ces répertoires-là. Et donc, dans une sorte de préhistoire d'une histoire qui est en train de s'écrire aujourd'hui, je pense aux travaux de Françoise Vergès, notamment sur le ventre des femmes, où en fait, à travers une idéologie démographique liée à la pensée de la contre-insurrection, on considère qu'il faut empêcher les femmes colonisées, les femmes du tiers-monde, de produire trop d'enfants parce que ça générerait une menace de subversion sur la souveraineté impériale française. Et donc, il participe pendant 4 ans à La Réunion à la mise en place de systèmes d'encadrement socio-éducatif des populations, comme ils disent dans leur langage, qui va préparer le Bumidom, ce système d'émigration forcée vers la métropole et aussi les systèmes de contraception forcée des femmes à La Réunion.
Alors peut-être juste dire un mot du Bumidom, donc c'est le bureau des migrations des départements d'outre-mer, donc qui a organisé de 63 à 81 plus de 70 000 déplacements de travailleurs, travailleuses issus des colonies des Antilles de La Réunion pour la moitié surtout de La Réunion, et il est dit donc dans l'histoire du Bumidom qu'il a été créé en 63 sur l'idée de Debré suite à un de ses voyages à La Réunion en 59 quand Pierre Bolloté était préfet.
Programme qui va continuer jusqu'en 81 quand même, hein, ouais. Donc il traverse toutes les années 60 et les années 70.
Alors après, il est renvoyé à Paris en 63. Il est affecté auprès du préfet Aubert. Il est directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Roger Frey, qui est resté célèbre pareil pour son art répressif. Et il travaille à la décentralisation jusqu'en 65. On retrouvera donc cette part de son histoire plus tard. Et du coup, en juin 65, il acquiert le titre de préfet et il obtient la préfecture de la Guadeloupe. Il dit, ouvrez les guillemets, qu'il va pouvoir y développer les jalons nécessaires à ce que je souhaitais préparer pour l'avenir de la Guadeloupe. Donc il a tout un programme pour l'avenir de la Guadeloupe. Voilà. On est à cette époque-là, en Guadeloupe, quelques années après donc, la révolution à Cuba. Et on a, du point de vue du bloc de pouvoir français, une focalisation sur tout ce qui peut ressembler à des formes qu'ils appellent subversives, à l'émergence de mouvements autonomistes, de mouvements révolutionnaires dans le peuple guadeloupéen. Et il y a aussi une sorte d'une restructuration suite à la Seconde Guerre mondiale, où en fait se réarticule l'économie des gros planteurs avec une nouvelle classe administrative. Cette réarticulation, elle aboutit à un approfondissement des inégalités socio-racistes et un développement toujours plus profond de conditions de vie misérables, qui donne toute une série de conditions sociales à l'émergence de révoltes et à l'émergence d'un mouvement révolutionnaire. Et donc on a effectivement dans le peuple guadeloupéen à ce moment-là des forces sociales qui regardent du côté de la libération de Cuba, qui ont vu l'Algérie, qui ont vu l'indépendance des îles de la Caraïbe sous domination britannique, on pense à la Jamaïque en 62, à la Guyana en 66, et donc on a des groupes révolutionnaires qui effectivement commencent à se former en Guadeloupe, mais qui n'ont pas du tout les dimensions que Bolot va leur prêter. Et ce mouvement indépendantiste qui s'organise, il s'organise en rupture, en dissociation avec le Parti communiste guadeloupéen, qui est accusé de compromission avec le gaullisme. Et donc on a des petits groupes qui commencent à se rendre visibles par de l'action et qui vont être directement ciblés par le bloc de pouvoir comme étant les prémices de la subversion communiste révolutionnaire. Enfin, donc là ils disent pas communiste parce que c'est plus à gauche que le Parti communiste, mais donc des prémices de la subversion. Et du coup, alors, dès son arrivée dans l'île, Bolot, il fait installer son bureau directement dans la vieille bâtisse coloniale et il se met à régner en gouverneur impérial. Il va faire le tour de tous les notables des administrations de la Guadeloupe pour réunir des informations sur la situation et il dit, dans ses archives, « Je fus, et de plusieurs manières, informé et convaincu après plusieurs conversations quasiment privées de l'existence de plusieurs initiatives et même de plusieurs petits organismes qui militaient pour l'autonomisme et même pour l'indépendance de la Guadeloupe. » Ça, c'est dans son autobiographie qui n'a pas été publié. Et donc, il précise que les renseignements généraux lui ont fourni de nombreux détails précis et nominatifs récoltés depuis 62 sur cette agitation souterraine qui l'alerte fermement, encore le terme d'alerte. Alors, il dit « Je résolus d'accroître fortement notre effort d'information valable dans ce domaine. » Et il se résout aussi à mettre en alerte le cabinet Jacquinot, le cabinet du ministre de l'Intérieur Frey, le cabinet de Matignon. Et il dit « Et les plus concernés des collaborateurs de l'Élysée, on le verra comme par la suite, il fait très certainement référence à Jacques Foccart. Et il dit « Je fus entendu et je revins persuadé qu'il y avait là, à côté de Cuba et dans le système d'agitation politique et sociale de la tricontinentale, une menace directe contre les départements français de la Caraïbe et contre leur statut national. » Donc on a là, à travers ces mots, une des traces de la mise en œuvre d'un début de protocole de contre-insurrection à travers le ciblage de ces premiers mouvements indépendantistes. Et du coup, Bolot et le bloc de pouvoir vont focaliser de plus en plus, ils vont essayer de trouver quelque chose qui ressemble à leur obsession pour des formes proches du Viet Minh ou du FLN. Et donc, ils vont focaliser notamment sur un groupe qui commence à s'organiser, qui s'appelle le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, le GONG, qui est fondé à Paris en 63 par quelques militants du front anti-guyanais. Et qui compte en fait qu'une dizaine de membres, et notamment une figure officielle à cette époque-là, qui est le docteur Sainton. Ce groupe revendique l'autodétermination, et ses membres se positionnent comme révolutionnaires, et se disent révolutionnaires, et leur pratique consiste pour l'instant à écrire des slogans indépendantistes sur les murs, à diffuser des tracts en prenant parti aux luttes sociales. Voilà. Dans ce temps-là, Bolot va développer aussi tout un système de, comme on disait tout à l'heure, de hiérarchie parallèle, des structures d'encadrement de la population. On arrive fin septembre 66, il y a un cyclone qui a été appelé Inès et qui dévaste l'île. et qui renforce encore plus des conditions sociales misérables, et puis notamment des inégalités dans l'accès aux réparations et aux moyens de reconstruction, qui du coup renforce les raisons de la révolte sociale, et qui fait que le bloc de pouvoir cherche de plus en plus à identifier tout ce qui pourrait ressembler à des meneurs ou à des formes d'organisation de la révolte. Et du coup, Bolot va reconduire sa grille de lecture antisubversive. Et dans son autobiographie, il insiste pour qu'on se souvienne, entre guillemets, que nos départements faisaient figure de lieu d'expérience aux agitateurs qui, à Cuba, assumaient largement les conceptions de la tricontinentale. Nos autonomistes étaient, j'en avais des présomptions et des preuves précises, en relation avec ces gens. Alors, on sait aussi, les gens qui ont fait c'est une histoire du gong et des mouvements indépendantistes en Guadeloupe, que bon, ces relations étaient... il y avait un peu de réel, il y avait aussi, elles ont été aussi en partie fantasmées par le bloc de pouvoir. Et on arrive à une première séquence qui est quasiment une répétition du massacre de mai 67, alors où il n'y a pas massacre, mais en fait qui est quand même une première élaboration d'un modèle de contre-insurrection en Guadeloupe, qui est en mars 67, le 20 mars, à Basse-Terre, dans la préfecture de Lille, où on a un riche marchand blanc qui est nommé Vladimir Serensky, qui est un proche de Jacques Faucard. Et du coup, peut-être on l'a pas dit, mais donc Faucard,
c'est
l'homme de l'ombre. Enfin, l'homme de l'ombre. Maintenant, il est assez connu, mais dans le cas qui est le chargé de l'empire dans l'ombre de Gaulle, et qui est aussi d'une famille d'industriels de la banane en Guadeloupe, et donc il y a une histoire parallèle, notamment dans l'économie de la banane ou dans pourquoi dans les écoles de France on sert des bananes au goûter, etc. et qui est lié aux intérêts purement économiques de la famille Faucard. Et du coup, ce Serensky est un proche de Faucard, et c'est un colon féroce, comme d'autres. Et ce 20 mars, il lance son chien contre Terzien Balzinc, qui est un cordonnier noir et handicapé. Ça va déclencher une grande révolte. La colère explose parmi les Guadeloupéens, le chien est tué, le magasin de Serensky est mis à sac, et là Bolot nous dit dans ses mémoires que, ouvrez les guillemets, des jeunes gens plus ou moins organisés dans leur arrivée sur les lieux arrivèrent, et il y avait parmi eux des adhérents bien repérés du gong, l'organisme leader de l'autonomisme. Alors pareil, ça on voit, il a aucune source sur ça, mais c'est sa manière de justifier ce qui va se passer par la suite, et en tout cas c'est sa grille de lecture. Il est persuadé que derrière cette révolte il y a, comme en Algérie, comme en Indochine, une manipulation de la pieuvre subversive qui veut utiliser les colonisés contre la souveraineté française. Il envoie la police, il envoie des renforts de gendarmerie pour disperser, et il dit que c'est la seule attitude possible si on ne voulait pas déclencher une rude émeute. Alors bon, j'avance un peu sur ça. Dans ses archives, il dit aussi, ce qui est assez intéressant, notamment par rapport à des choses aujourd'hui, mais il dit le seul fondement d'une émeute est d'ordre racial. C'est-à-dire qu'il y a une lecture racialiste de la révolte sociale, et qui est liée aussi à l'idéologie anticommuniste, où on considère que les peuples colonisés ne se révoltent pas parce que le colonialisme est une forme de domination atroce, mais parce qu'en fait c'est des grands enfants qui ne sont pas encore arrivés à maturité, c'est des races inférieures, et que le communisme les instrumentalise, les manipule. Il y a vraiment une conjonction de l'idéologie anticommuniste et de la culture raciste. Et alors Bolot continue en disant que il parle du gong, il va dire cette phrase qui est en fait assez exemplaire de ce qui va se passer. Il dit « Cette organisation séparatiste est à traiter sans ménagement aucun ». Enfin, c'est pas de lui, c'est une phrase qu'il répercute. Il dit que c'est le gouvernement qui lui transmet cette déclaration. Donc en gros, le gouvernement lui dit « Cette organisation séparatiste est à traiter sans ménagement aucun ». J'avance un peu. Au cours du printemps, Bolot fait un aller-retour à Paris pour rendre compte de ce qui s'est passé en Guadeloupe, pour alerter la hiérarchie et dire attends, vous voyez ce que je vous avais dit, il y a effectivement développement d'une menace subversive en Guadeloupe, donnez-moi tous les moyens possibles, et puis bien entendu ça va avec, reconnaissez-moi comme un expert de la pacification. Et donc là, je le cite parce que c'est aussi intéressant. Il a une réunion à Paris à ce moment-là avec le président des sucriers antillais. Et c'est-à-dire, enfin, c'est vraiment pour montrer qu'il y a vraiment une coordination directe entre les industries coloniales et le pouvoir répressif. Et Et à ce président des sucriers antillais à Paris, il lui jure, entre guillemets, que tout le nécessaire sera fait avec nos moyens très importants pour ce qui serait entrepris en 67, pour la concentration des usines que mon interlocuteur souhaitait avec juste raison, et pour le bon fonctionnement des relations entre les industries propriétaires de Cannes et les petits planteurs. Donc là, on a un truc, une déclaration quasiment marxiste sur la conjonction entre les intérêts des capitalistes coloniaux et le bloc de pouvoir et le système répressif. Où vraiment, on articule la répression aux intérêts des industriels. Et on arrive au 1er mai 67, où Le Gong organise une manifestation publique à Capesterre, et où là, les renseignements généraux vont en profiter pour confirmer leur ciblage de l'organisation et la constituer réellement comme une... la désigner comme menace subversive majeure. Et ce jour-là, un militant qui s'appelle Jacques Nestor est pris en photo, il est fiché comme membre actif et va être considéré comme l'un des dirigeants du Gong, ce qu'il n'était pas. Et donc là où aussi on voit un peu ce que le travail de fichage peut faire, parce qu'on va voir ce qui va arriver à Jacques Nestor, le fait d'être fiché par les services de renseignement peut générer toute une fascination, toute une construction du chef, une construction du responsable de la subversion, etc., pour s'en défaire, pour le démettre, pour l'éliminer, en général pour l'éliminer.
Ce qui là aussi n'est pas sans rappeler des choses très actuelles.
Exactement. Et donc on arrive fin mai 67, où la situation mondiale est plutôt concentrée sur le Proche-Orient, il y a les tensions entre Israël et l'Égypte, et en Guadeloupe, c'est les ouvriers du bâtiment qui entament une grève à partir du 24 mai. Ils cherchent à obtenir 25% d'augmentation de leur salaire. Le patronat ne bouge pas, il est complètement intransigeant, il est complètement soutenu par le préfet Belote, et donc le but c'est de casser cette grève et de renvoyer les travailleurs au travail. Belote dit à ce moment-là: « J'avais le sentiment que l'occasion de l'explosion que je pronostiquais depuis 2 mois était arrivée. » On dirait vraiment que ça lui fait presque plaisir. Il rajoute: « Je ne voulais pas laisser seul J. Petit, c'est le sous-préfet, pour y faire face. » Et donc il organise dans l'urgence une réunion avec l'état-major. On est à la veille de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et du coup, entre ces tensions dans le domaine du travail, il y a des conditions socio-historiques qui font que la révolte est possible. Là, on a dans la foule quelqu'un qui annonce qu'un membre du patronat aurait déclaré à l'intérieur du bâtiment où ont lieu les négociations, un membre du patronat aurait déclaré: quand les nègres auront faim, ils retourneront au travail. Et donc l'annonce de cette phrase fait éclater la colère. Les insultes fusent contre les CRS, contre les gardes mobiles qui encadrent la place, et une révolte se déclenche. Belote intervient pour faire extraire le président du syndicat patronal et ses 3 collègues. Donc il envoie la police pour sauver le président du syndicat patronal. Et comme d'ailleurs il avait fait, on l'a pas dit tout à l'heure, pour Serensky dans la première des révoltes, où il l'avait extrait aussi grâce à des unités de force de l'ordre. Et il dit à ce moment-là qu'ils reçoivent des coups de feu. Et donc là, on a les traces que c'est pas vrai. C'est lui qui manipule l'enchaînement des causes et des conséquences pour justifier le fait que effectivement les forces de l'ordre vont réprimer très très durement et vont ouvrir le feu. Et il dit: c'était à l'évidence le changement complet des données de notre problème, parce qu'il utilise le fait que la foule aurait tiré sur les forces de police. Pour justifier le retour de l'ouverture du feu. Et là, on a dans les mémoires de Jacques Faucard, lui dit: il a fallu dégager la place avec une certaine violence, ce qui est la rhétorique de Faucard. Face à l'escalade répressive, la foule grossit. Des jeunes se saisissent de bouteilles, de conques de lambis, c'est des gros coquillages tranchants qu'ils vont jeter sur les policiers. Et donc là, on a deux militants qui sont connus des services de police et qui sont ciblés. C'est Jacques Nestor et Paul Tomich, ils sont ciblés comme subversifs. Ils sont reconnus par les services de renseignement parmi les manifestants. Et Belote dit que les pierres et les coques de lambris ont été d'évidence rassemblées là auparavant. C'est-à-dire qu'il construit toute une fiction quasiment complotiste de l'organisation de cette révolte. Et il dit « une vingtaine de CRS isolés des autres par un mouvement de foule, durs pour se dégager, faire usage de leurs armes. Un des manifestants fut tué, Jacques Nestor, membre reconnu du gong, et l'un des principaux meneurs. » Et quasiment, Bolot s'en félicite. Et du coup, il ajoute que moins d'un quart d'heure avant, une armurerie en ville aurait été dévastée par un petit commando. Ce qui est, donc là, maintenant, on a vraiment les traces que c'est pas vrai. Il inverse les causes et conséquences. Bon, c'est notamment un travail qui a été fait. Il y a une commission pilotée par Benjamin Stora qui amène des sources sur ça et qui montre qu'il y a effectivement un renversement des causes et des conséquences. Voilà. Et on a dans un récit de Paul Tomich qui dit, lui, qui décrit la situation, il dit « Pour les jeunes qui étaient là, c'était la révolution. Ils ont pris des conques et des pierres au sol pour les lancer sur la police, et la police a tiré. » Donc ça, c'est la version du côté du peuple. On a des coups de feu de la police qui sont enregistrés vers 14h, jusqu'aujourd'hui, les forces de l'ordre justifient en disant qu'ils ont répliqué à des tirs venant des manifestants. Donc Jacques Nestor, qui a 24 ans, est tué d'une balle dans le ventre, et Harry Pincemaille, qui a 26 ans, lui s'effondre d'une balle dans le front. La nouvelle se répand autour de 15h, et la révolte embrase tout Pointe-à-Pitre. Des blancs sont attaqués, et deux armureries sont pillées, ce coup-là, effectivement. Des incendies se multiplient et des jeunes misérables des bidonvilles vont accourir vers le centre-ville. Et donc là, on a une séquence qui ressemble un peu à celle de décembre 60 en Algérie. On pourrait y revenir pareil sur une autre émission. En tout cas, on a pour le bloc de pouvoir, assiste au déferlement des damnés de la terre sur le centre-ville colonial. Et ce qui est de nature à lui confirmer qu'il faut utiliser la terreur d'État. Voilà, bon, toute une série d'ordres répressifs sont donnés et Bolot décide de bloquer le départ d'un escadron de gendarmerie qu'il avait reçu en mars pendant la première révolte. Il devait quitter l'île, il les empêche de partir et il déploie ses gardes mobiles, donc c'est des militaires hein, et c'est des spécialistes en contre-insurrection. Il les déploie autour de la sous-préfecture vers 17h. Et là, on a des notes dans les archives qui montrent que Bolot, encore une fois, n'est pas en train de dériver individuellement. Il est complètement encadré par l'État et il est couvert même par Focard auprès de De Gaulle. Focard dit dans ses mémoires « Bien entendu, j'ai donné mon accord sans vous en référer », il parle à De Gaulle, « car cela me semblait évident ». Focard dit qu'il juge la situation assez grave et donc on transmet la répression à l'armée. Voilà. Un quart d'heure après avoir été déployé, les gardes mobiles commencent à tirer sur la foule. On est à la tombée de la nuit, on pourrait en discuter, c'est un moment crucial de la contre-insurrection, et pour dans l'imaginaire répressif, mais aussi d'un point de vue technique, hein, c'est le moment où l'ennemi de la contre-insurrection, c'est le peuple, dans la nuit est effectivement un des moments privilégiés pour des civils combattants, pour attaquer une armée d'occupation, par exemple. En tout cas, c'est un cadre qui ouvre la possibilité à l'utilisation de la terreur par le bloc de pouvoir. Et voilà. Et donc, on a des gardes mobiles qui commencent directement à tirer au début de la nuit, et les pelotons vont patrouiller jusqu'à 2h30 du matin. On décrit des véritables chasses à l'homme dans les rues. Georges Tarrer, qui est sage-femme à l'hôpital, décrit alors deux jeunes qui jouaient aux guerriers en mettant à l'épaule des fusils non chargés qu'ils avaient récupérés à l'armurerie. Et décrit, ouvrez les guillemets, « des gendarmes sont passés et les ont tués froidement ». On a des traces d'autres personnes qui sont abattues directement. Trois hommes à différents endroits de la ville qui ont la jambe droite fauchée par des tirs de précision. Et ouvrez les guillemets, on nous dit « les forces de l'ordre avaient reçu l'ordre de faire usage de toutes leurs armes et de tirer sur tout ce qui bouge ». Ça c'est le témoignage de Solange Coudrieux, et qui rajoute « et comme tout ce qui bouge était noir, beaucoup de gens sont tombés. On m'a tiré de dos, comme un lapin. Je n'ai pas vu qui a tiré, mais c'était des képis rouges qui rentraient à la caserne et qui ont continué à massacrer du monde dans tout ce secteur-là ». On a toute une série de témoignages, je ne sais pas si on a le temps, mais qui nous montrent des rafles, des passages à tabac, des disparitions forcées, des exécutions sommaires, des tabassages à mort. Bon, puisqu'il faut avancer, je ne vais pas les citer, mais il y a un travail qui a été fait et qui nous par le mouvement social guadeloupéen pour récupérer ces témoignages et qui montre que tous ces dispositifs de contre-insurrection ont été mis en œuvre en mai 67.
Peut-être éventuellement tu peux citer des travaux vers lesquels on pourrait se référer si on veut avoir plus de détails.
sur...
Ouais, peut-être que je les donne à la fin, comme ça on okay. les... Bon, enfin, pour Paul Tomich, on a, en tout cas, une somme de travaux qui est réunie sur le site de Case Rebelle, qui a fait un super travail de synthèse sur les sources disponibles sur mai 67. Et donc, vous allez sur le site Case Rebelle, Case au pluriel, Rebelle au pluriel. Et il y a tout un dossier sur mai 67 où, voilà, qui retrace les différentes sources. Voilà. On sait que vers 1h du matin, il y a deux pelotons de gendarmerie qui arrivent de Martinique. Et là encore, c'est des forces militaires formées à la contre-insurrection, à l'écrasement de révoltes populaires par des formes de guerre. Le lendemain matin, le 27 mai 1967, il y a une manifestation d'un millier de lycéens dans les rues pour soutenir les ouvriers et pour dénoncer les violences subies par tout le monde la veille. Et là, Bolote persiste en disant que ce sont des meneurs du gong qui incitaient les élèves à ne pas suivre les cours et à manifester en ville. Il fait alors procéder au quadrillage des carrefours de la ville et de ses accès par les gardes mobiles. Les lycéens sont dispersés sans ménagement, ça redéclenche des affrontements. Les gendarmes tirent à nouveau. Là, un homme qui s'appelle Olivier Tidas est tué. Une autre personne qui s'appelle Emmanuel Angèle retrouve son père à l'hôpital tabassé et, ouvrez les guillemets, dans son témoignage, dit gris foncé avec des bleus partout et une tête énorme. Et cette personne meurt dans la nuit et son corps disparaît de l'hôpital. Donc là, on a des pratiques qu'on a connues aussi pendant la guerre de libération algérienne où en fait, les forces répressives vont chercher les blessés dans les hôpitaux pour les faire disparaître. Et ce qui est aussi une trace de la mise en place d'un protocole de contre-insurrection et pas du tout d'un débordement de violence non maîtrisée. Voilà, bon. L'ordre néocolonial va être réinstallé de cette manière-là et officiellement, on déclare 7 à 8 morts. Alors, il y a un bureau d'études de la préfecture qui, un peu plus tard, évoquera 22. Et on a ce chiffre, on pourrait en discuter longtemps, mais en 2009, Georges Lemoine qui est un administrateur français, qui dit qu'il aurait eu l'information de 87 morts, une information qu'il donne en 1985, mais dont une série d'historiens progressistes et pas du tout suspects de vouloir minimiser le massacre en Guadeloupe, eux-mêmes doutent de ce chiffre.
Je crois que c'est en 85 qu'il reconnaît.
Oui, c'est ça. 2009. Qu'est-ce que j'ai dit ?
2009.
Ah oui. C'est pas grave. Ah oui, non, mais d'accord. Okay. C'est en fait, on a une. Bon, Bolote, lui, dans ses archives, il reste campé sur 7 morts. C'est-à-dire qu'il donne, un chiffre qui est inférieur au chiffre officiel. C'est dire la sincérité de son récit. Voilà, on pense que le nombre de blessés varie entre une vingtaine et 200, ce qui est une fourchette très large, sans aucun doute des dizaines de morts et de blessés. Il faut avancer, mais il y a un procès à la suite de ça, qui est lui aussi dans les règles de l'art contre-insurrectionnel, où on tente de fabriquer les meneurs subversifs d'une manipulation visant à déstabiliser l'État, qui aurait la main mise sur la population et à dépolitiser ces révoltes. Voilà, et il se félicite, Bolote se félicite, en disant « On ne parla plus d'activistes ni d'indépendance pendant plus de 20 années en Guadeloupe. »
Et peut-être juste préciser que c'est un procès qui se déroule devant la Cour de Sûreté de l'État, donc qui est vraiment une juridiction quasi-militaire, qui est issue en tout cas clairement de cette période coloniale.
Peut-être juste une citation pour passer à une...
Ouais, pour en terminer.
Pour en terminer sur la séquence en Guadeloupe.
Ouais.
C'est une citation de Jean-Pierre Sainton et Raymond Gamma, qui sont des militants indépendantistes.
Et Jean-Pierre Sainton, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur le sujet.
Et qui est le fils, je crois, du coup, de Sainton et du gong. Et qui, de mon point de vue, donne une des meilleures analyses sur cette séquence et qui disent du coup sur le soulèvement de mai 67, ouvrez les guillemets, que c'est une révolte de la classe ouvrière contre une misère et une exploitation devenues insupportables et que c'est aussi une rébellion contre les attributs et les symboles du pouvoir blanc. Voilà, je pense qu'on...
On peut en rester là.
Depi mwen leve piti, mwen gatan la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Les moins vins grandis, t'y bois. Moi gardé à l'entour en moi. Guadeloupe, un cas coupé con. Français, ka douci, café, ayo. Moi, tout va. Maman moins voyant l'école, pas malheureuse et bien souffert. Et mettre la bien menti par moi, les montres grand drapeau bleu blanc rouge. En disant partir d'accord, et si je vais grainer en moi, et belle typo à nègre en moi, ton indigné moi pas français. Moi tout va. En 1967, la guerre leva un pays en moi. Salope chouye plein frais en moi. Moi vois qu'à qui l'ennemi en moi. On peut pas vivre avec yo. Fais yo rentrer à casa yo. Et laissez-moi à casa en moi. Pour moi, peut faire ce fait en moi. Plairait maman créole, ça me bien. Pas plairait maman créole, ça me bien. Bonjour tout ça qui a changé.
C'était La vie faufilée, titre de Fred Desailles qui
Fred
revient.
Des,
pardon, ah oui. Bah. Et qui revient sur. Tiens, il repart d'ailleurs. Qui revient évidemment sur mai 67. On en fêtait les 50 ans, hein, enfin, on en fêtait, pardon, on en commémorait les 50 ans l'an dernier dans une discrétion absolue, hein, côté métropolitain. En Guadeloupe, évidemment, cette mémoire a tendance à revenir, hein, on en parlait hors antenne. Mais enfin, c'est vrai, quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qui se prépare pour commémorer mai 68 et le silence absolu sur ce qui a pu se passer en Guadeloupe en mai 67 du côté des médias de masse, c'est toujours impressionnant, cette différence de traitement. En mai 67, donc, la personne, la figure, la triste figure dont on parle aujourd'hui, Pierre Belotte, il est préfet, et on en parle donc toujours avec Mathieu Rigouste, chercheur en sciences sociales. Alors, est-ce que Pierre Belotte va être sanctionné après ce massacre, hein, il n'y a pas d'autre mot, ce massacre commis contre la population guadeloupéenne à la fin du mois de mai 1967?
Eh bien, d'une certaine manière, oui, mais je ne crois pas de la manière que tu penses. En fait, il va être sanctionné parce que du côté de Focard, on considère que la répression n'a pas été assez radicale. Et ce qui nous prouve vraiment le caractère systémique et structurel de l'opération de contre-insurrection qui a été déployée contre les révoltes en mai 67 en Guadeloupe. Ce n'était pas du tout un débordement, une folie de gendarmes qui auraient dégénéré, mais bien on a appliqué un protocole. Et quand je le disais tout à l'heure, il y a des luttes entre les fractions dans le bloc de pouvoir, dans les classes dominantes, à la tête de la contre-insurrection. Et du coup, par exemple, Focard, lui, est plutôt du côté des faucons, du hard power, et il considère que Belotte a pas été assez ferme. Il y a une petite trace de ça dans les mémoires de Focard, où il parle de Belotte et il dit « Je ne le critique pas globalement, je dis qu'il n'a pas de crédit là-bas. Le fait même qu'il n'ait pas de crédit, c'est-à-dire qu'il n'inspire pas confiance à ceux qui sont pour la présence française, vient de ce qu'il permet aux autres de relever la tête, il vient de commettre un massacre, hein, en manifestant une certaine faiblesse et une certaine démagogie. » Alors, on sait aussi, ça c'est Bolot qui le raconte, c'est qu'a priori, la gestion des intérêts des industriels, des capitalistes en Guadeloupe, il a mis en place des restructurations qui n'ont pas toujours favorisé la famille Focard. Et donc, du coup, Focard lui en veut aussi pour ça. En tout cas, on va le mettre un petit peu de côté, à la fois pour laisser passer la tempête, mais aussi parce qu'on considère qu'il n'a pas été assez ferme dans ce protocole d'écrasement. Et donc il est ramené à Paris, on le fait passer quand même préfet hors cadre. Et,
donc ce qui est une distinction.
Oui, c'est quand même une évolution de carrière. Bon, et puis il va se passer un peu de temps et le bloc de pouvoir, et notamment Focard, vont lui redonner les manettes. Il passe 2 années en service détaché comme secrétaire général de la délégation générale à la recherche scientifique. On peut considérer que c'est un peu un placard. Hein. Et alors là, il va devenir, donc après avoir été l'un des ingénieurs civils de la contre-insurrection en Indochine, l'un des expérimentateurs de son industrialisation à Miliana en Algérie, puis pendant la bataille d'Alger, l'un de ceux qu'il a réagencé pour l'adapter à la Réunion, puis à la Guadeloupe. Et ben là, en 1969, il va devenir le premier préfet de la Seine-Saint-Denis, ce nouveau département qui vient d'être créé. On peut le dire aussi, c'est une autre histoire, mais il y a effectivement dans l'après 68 une volonté du pouvoir de briser toute possibilité de révolution sociale et donc notamment d'un redéploiement de la souveraineté politique sur les quartiers populaires de la banlieue parisienne. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va découper les banlieues et avec une stratégie qui est une stratégie de contre-insurrection. Il s'agit de casser pour une part les bases des mouvements communistes les plus radicaux et des mouvements de libération, et puis de transmettre à la part la plus autoritaire et disons la moins émancipatrice du Parti communiste, qui a déjà la gestion de ces banlieues rouges, justement la gestion de la pacification de ces quartiers populaires. Et donc, on crée la Seine-Saint-Denis à cette époque-là. Et d'ailleurs, Bolot a des mots sur ça. Elle dit qu'elle avait été dessinée à partir des villes de Laix, Seine et Oise en cherchant à faire la part du feu. Et donc voilà, il est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, qui est resté dans l'histoire comme une personne fascinée par la contre-insurrection et un ministre de l'Intérieur ultra répressif, et notamment aussi, d'ailleurs c'est Bolot lui-même qui le dit, un anticommuniste viscéral, et ce qui est vrai. voilà, et donc on lui demande de gérer cette nouvelle répartition des communes dans ce nouveau département de la Seine-Saint-Denis, mais on lui demande de le faire sans augmenter les budgets. Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, Bolot le dit lui-même, qu'il a bien compris ça, c'est qu'on lui demande en gros de rationaliser, de rentabiliser la réorganisation de la police dans ces quartiers-là. Et ce qui est très intéressant, parce que donc c'est de ça qu'on va parler, c'est que les formes de police qui vont être créées à ce moment-là, à partir des répertoires de la contre-insurrection, sont aussi des formes de police qui sont censées être le plus rentables, le plus rationalisées, les plus optimisées pour produire de l'activité policière. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler des polices d'abattage. Et d'abattage dans tous les sens du terme, les prototypes de la BAC. Abattage en termes de chiffres et abattage en termes de chasse aux prolétaires et aux prolétaires non blancs en particulier. Et donc, Bolot se retrouve à la tête d'une nouvelle direction de la sécurité publique, et où il va faire transférer en quelques mois tous les services qui étaient issus de la préfecture de police pour optimiser leur productivité. Et il dit que tous les commissariats hérités des deux départements furent pris en main par le contrôleur général Béguet, qui avait accepté de venir à Bobigny. Je fis le tour de tous les commissariats, souvent de nuit, pour mesurer les réalités de la vie des policiers partant en tournée ou en patrouille. Maurice Grimaud, préfet de police, me donna très amicalement toute l'aide que j'attendais en ces circonstances difficiles. Et donc voilà, c'est sous son autorité et en perspective de créer un nouveau département expérimental que va être créée la première brigade anticriminalité le 1er octobre 1971 à Saint-Denis. Voilà, comment on dit, il n'y a pas de hasard, mais bon, en tout cas des récurrences qui nous parlent jusqu'aujourd'hui. Et c'est l'officier de paix principal, Claude Durand, qui propose, sous l'impulsion de Belote, de créer une police anticriminalité qui consiste, alors on dit plus à pénétrer les populations, sous-entendu colonisées, mais à pénétrer la population. Et donc on est vraiment dans le laboratoire du système sécuritaire et du nouvel écrasement des quartiers populaires, et on va aller chercher dans les doctrines de contre-insurrection. Il s'agit... Donc là, dans l'idéologie de Belote, c'est plus les colonies qui sont considérées comme des viviers de la prolifération de la menace subversive, mais les quartiers populaires. Et il s'agit de les immuniser, désormais plus d'immuniser l'Empire face à la menace communiste, mais la nation et la République. Et donc la BAC 93, son prototype, est créée sur le principe d'une pacification désormais intérieure, et pour laquelle il faudrait des unités policières particulièrement rentables et productives, et capables de mener une sorte de guerre de basse intensité, entre guillemets, c'est des commandos policiers qui sont créés par Belote, et là on en revient à sa séquence à Alger, c'est-à-dire qu'il met en place... en Seine-Saint-Denis, il dérive une expérience qu'il a lui-même menée à Alger en 56-57. Voilà, on peut citer aussi quelques éléments de discours qui donnent du sens. Les premières expérimentations de ces unités anticriminalité, à cette époque, elles sont encore appelées brigades spéciales de nuit, elles interviennent essentiellement la nuit, c'est Pasqua qui les généralisera plus tard. Elles vont être systématisées en avril 73. Et on va avoir des équivalents en journée, les BSVP, Brigades de Surveillance de Voies Publiques, et on va leur confier trois objectifs. Alors, un, ouvrez les guillemets, assurer une surveillance permanente et discrète de la rue et des lieux publics. Deuxième objectif, tenter de réaliser des interpellations en flagrant délit. On pourrait y revenir, mais c'est un des dispositifs qui fait que la BAC est une police particulièrement féroce. Et on retrouve ce terme, créer l'insécurité dans les milieux délinquants. Qui est encore une forme de récit qu'on côtoie généralement aujourd'hui, mais dont on voit là directement dans le parcours de Belote d'où vient cette manière de penser la répression. Voilà. Je vais faire peut-être une dernière citation pour montrer comment ce préfet va expérimenter en Seine-Saint-Denis une traduction des dispositifs de quadrillage militaro-policier qui avaient été systématisés en Algérie. Et que là, du coup, il va tenter d'appliquer à une forme de socio-apartheid métropolitain. Il dit « Les problèmes majeurs étaient ceux que posaient les dizaines de milliers d'immigrants, en particulier dans les villes proches de Paris. » Ça, c'est dans ses mémoires. Et il ajoute « Les bidonvilles avaient proliféré à Saint-Denis, à La Courneuve, à Montreuil, à Aubervilliers. Je ne pouvais pas supporter de revoir, ici et maintenant, les mêmes installations socialement et humainement insupportables que j'avais connues en Algérie. » Et donc il va calquer toute sa grille d'analyse contre-insurrectionnelle pour la restructuration néolibérale des banlieues ouvrières parisiennes. Et là, Belote va livrer un exemplaire quasiment caricatural de la pensée sécuritaire et donc de son origine coloniale et militaire. Il dit « Les attaques des personnes âgées ou isolées en fin de journée, les dégâts et les incendies causés aux voitures, les vitrines cassées et pillées, le caractère odieux et irrépressible des comportements dans les quartiers dits difficiles, et pour parler clairement, cela veut dire dans les banlieues à forte population immigrée, tous ces actes criminels de plus en plus nombreux, insensibles et agressifs sont allés se développant. L'insécurité a envahi toutes les villes et même les campagnes. Tout cela représente le retour d'une barbarie primitive, et c'est un pas en arrière de nos civilisations. » Voilà, caricature magistrale de la pensée identitaire et sécuritaire. À partir de ça, Belote va insister auprès du bloc de pouvoir pour qu'on développe des formes d'îlotage permanentes dans les quartiers de la banlieue parisienne et pour qu'on généralise ces nouvelles unités un peu partout en France. Voilà, pour conclure, bon, il a après le reste de sa carrière n'est pas très intéressant. Il va être promu directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur en 1974 jusqu'en 1977. Après, il est préfet de la région de Haute-Normandie jusqu'à 1982. Puis il prend sa retraite en 86. Et il sera adjoint au maire du 16e arrondissement de Paris de 83 à 2001. Il meurt en 2008.
Et ben voilà, on termine ainsi le cycle sur la vie d'un barbare primitif. Donc Pierre Belote.
On dit serviteur zélé de l'État.
Ah, pardon, excusez-moi. En tout cas, quelqu'un qui a du sang sur les mains et qui a structuré la violence d'État raciste. De l'Indochine au 93 et en passant par par la Guadeloupe en mai 67. Voilà, on trouvait ça intéressant de faire se focus sur ce personnage, et puis du coup en plus de pouvoir amener au passage faire mieux connaître certaines archives qui sont pas toujours pas très connues d'ailleurs. Donc on peut dire que il y a un article de synthèse un peu court que on peut retrouver sur Bastamag sur le sujet.
Bastamag.net. Hein,
ouais. Bastamag.net, tout à fait. Des massacres oubliés de mai 67 en Guadeloupe aux prémices de l'ordre sécuritaire moderne dans les quartiers. Il y a une version plus longue de ce travail aussi qui est apparaître, je crois.
Ouais, apparaître. Du coup, Elsa Dorlin qui dirige la publication des actes du colloque pour lequel on a travaillé sur ça. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais le fruit du travail là, que je viens de présenter, ça sortira un jour.
Dans une, tu as peut-être le nom de la revue,
non? Non, je ne sais pas.
Ok, d'accord.
Ce sera un bouquin.
Bon, en tout cas, on essaiera de
à suivre,
voilà. Notamment, on essaiera de mettre le plus d'infos possible quand on mettra ce podcast en ligne. Peut-être c'est ça que vous êtes en train d'écouter d'ailleurs. Donc, en bas de la page, là, normalement, il y a des liens. Allez-y. Il y a le travail de Case Rebelle vers lequel on vous renvoie. Et peut-être on va terminer avec une petite info.
Ouais, quelques dates. Bon, déjà à dire évidemment que c'était, on le redit, hein, c'était que la première émission consacrée à des parcours d'acteurs coloniaux. Il y en aura d'autres. On verra qu'à chaque fois, souvent dans les acteurs coloniaux, comme ça, on a des parcours qui les amènent depuis les territoires colonisés, mais qui les ramènent après sur le territoire métropolitain et même parfois ailleurs, à l'étranger, où la France exporte un savoir-faire colonial, contre-insurrectionnel, etc., etc. On dit aussi on continuera aussi notre série sur la Nouvelle-Calédonie et on prépare notamment une émission pour commémorer un autre massacre, celui d'Ouvéa. C'était en 88, c'est le 30e anniversaire exactement. Voilà. C'est assez étonnant d'ailleurs que ce référendum d'autodétermination arrive quasiment 30 ans après ce massacre-là. On en parlera ça aussi. Juste aussi une date, Elsa Dorlin, tu l'as citée deux fois, elle est la semaine prochaine sur Toulouse. Ce sera la librairie Terra Nova mardi 3 avril à 19h. C'est gratuit évidemment, elle vient présenter son bouquin paru aux éditions Zone, Se défendre, une philosophie de la violence. Et puis peut-être terminer en parlant de cette journée du 10 avril.
Voilà, parce que du coup, pour boucler la boucle, on peut dire que toi Mathieu, tu as été victime directe de ces forces répressives qui tirent leur histoire dans les colonies. Puisque tu as été passé à tabac par des policiers à Toulouse par la BAC, voilà, la même unité dont on parlait à l'instant, malgré le constat médical assez long sur les blessures que tu as subies, c'est pas eux qui sont en procès, tiens donc, mais c'est toi, donc pour outrage et rébellion
et violence
sur un agent. Voilà. Du coup, tu passes en procès le 10 avril. Il y a un rassemblement de soutien qui est organisé par le comité Vérité et Justice 31 devant le tribunal ce jour-là. Et surtout, on vous appelle à venir en soutien. Et ça sera aussi l'occasion. Donc, il y a plusieurs collectifs en France qui travaillent sur les violences policières, notamment des collectifs de proches de victimes qui ont été tués par la police, qui du coup viennent à Toulouse. Ça sera l'occasion donc de prise de parole de ces collectifs. Ça sera l'occasion aussi pour les personnes qui sont fidèles, auditeurs, auditrices de Canal Sud, de pouvoir entendre un peu leur voix pour faire connaître leur combat. Et puis du coup la radio aussi accueillera des discussions entre ces collectifs. C'est des moments rares dont on essaie de profiter. Du coup tu veux en dire un mot peut-être ou...
Justement, oui, ça c'est pas tant, on appelle au rassemblement notamment en fait pour contre-attaquer en quelque sorte face à ce procès-là et pour pouvoir mettre en lumière le fait que dès que tu te défends, on revient sur les trucs d'Elsa Dorlin là, mais dès que tu te défends, le pouvoir fait tout pour t'empêcher de te défendre en t'écrasant encore plus. Et du coup on propose de se voir avec le plus possible des comités Vérité et Justice d'un peu partout en France pour se donner de la force, pour construire des résistances et puis pour dénoncer aussi publiquement la manière dont en fait dans chaque affaire de violence et de crime policier, les proches des victimes, les familles, les comités se retrouvent avec des procès en plus, généralement outrage, violence et rébellion, pour les empêcher de se défendre et pour les écraser encore plus. Donc on veut mettre ça en lumière, on veut se solidariser, se souder encore plus. Il y aura aussi une réunion non publique mais qui nous permettra dans l'idée de construire ces forces de résistance collective. Et on appelle au rassemblement et pour pour venir écouter ce que tous les comités ont à raconter sur les affaires, sur les pressions qu'ils subissent, sur aussi les outils qu'ils mettent en place, les expériences qu'ils ont à partager, bah, notamment pour se donner de la force. Et puis il y a peut-être un autre truc qu'on peut citer, qui est en fait dans la même ligne. Quelques jours plus tard, du coup, sur Toulouse, commencera le festival Autodéfense Populaire, qui est 9 jours de rencontres et d'échanges de pratiques.
D'organisation collective,
voilà. De défense, de solidarité, dans différents domaines de lutte. Et où, voilà, pareil, on invite les gens à venir se rencontrer et à se donner de la force.
Donc ça sera du 14 au 24 avril sur Toulouse, sur un lieu encore à déterminer. Vous pouvez en tout cas rester branché sur www.autodéfensepopulaire.net pour avoir les informations au fur et à mesure qu'elles seront précisées. Merci.
Merci Mathieu, merci d'être venu partager avec nous ce triste parcours.
Merci à Ben qui est assuré à la technique. On vous retrouve à une date ultérieure.
Ça n'a pas été dit, hein, mais donc le 10 avril, c'est un mardi, c'est à 13h30 le rendez-vous devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Et c'est pas totalement déterminé, mais il y aura évidemment des prises d'antenne à Canal Sud, notamment à l'heure du magazine, donc de midi à 14h.
Et peut-être dans l'après-midi, soyons fous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve, on espère, le plus tôt possible du coup pour la suite de cette série d'émissions. Mais restez à l'écoute de Canal Sud.
Parce que la terre m'irait bien que face à Marianne, la bitch, la braqueuse. C'est du blues. Qu'il me voit plus comme un petit AE. Sérieusement, tiraillé des tripes depuis que je lis l'histoire de mes aïeux. Sincèrement, j'ai bien fait de faire le soir avant cours. Vu que leur discours diffère, dites leur ouvert chape. Ferme jamais ton clapet comme Boubacar Joseph Ndiaye. Et l'histoire survivra au time. Tourner la page, et mais je crois l'espoir est d'aille. Y'a qu'à voir l'origine des blases. Même Digo mis ses bases. Gars, ici ça respecte encore l'esclavagiste. Donne leur nom, rue de Bordeaux soutiennent le béquet aux Antilles. Tout ça pue l'infamie. Le FMI cultive la famine. Maintient la main mise de la France à Afrique. Ils parlent de liberté en mettant leur type à la tête du pays pour qu'ils s'enrichissent pas le PIB. Y'a juste à savoir qui Jacques Faucard. 400 ans après qu'un blanc ait mis un noir dans un fond de gueule. L'homme blanc a su faire saliver. Maintenant faut se faire à l'idée. C'est niqué par les dégalités. L'avenir est bien balisé. L'homme blanc a su faire saliver. Maintenant faut se faire à l'idée. C'est niqué par les dégalités. L'avenir est bien balisé.
Police de France, cher pays de l'ignorance, un passé ignoble, la culture des vignobles, diablerie à outrance, violence en outre-mer, doute de vos intentions, de la justice, votre honneur, trafic d'influence, au pays du mensonge et de la médisance. Comment croire en l'exemplarité des valeurs qu'on nous a répétées au collège, messieurs, on vit le décalage avec la réalité. Il faut pas être savant pour comprendre qu'on nous cache la vérité. Non, ça va pas, ils veulent pas reconnaître leur tyrannie au temps de nos ancêtres. Les actions sont plus vicieuses car on n'est plus cultivé. Enfin pour la plupart, on fait pas public et privé. Comme mon libre arbitre, libre de ma vie, de mes pensées, de mes actions. De croire qu'ils testent nos réactions et que nous acceptons leurs inactions. Dis-nous, mais je suis pas dedans. Je prends 2 minutes de réflexion mais j'ai pas le temps. Blanc, la peau tachée par le péché jusqu'à la fin des temps.
L'homme blanc a su faire saliver. Maintenant faut se faire à l'idée. C'est niqué par les dégalités. L'avenir est bien balisé. L'homme blanc a su faire saliver. Maintenant faut se faire à l'idée. C'est niqué par les dégalités. L'avenir est bien balisé.
Ils ont eu Sankara, Bono et Dulci, Lumumba, Olympio, des indociles, alimentés en armes des génocides. Tu m'étonnes que l'Algérie va en français un jour aussi. On a des chaînes ici aussi. Je me délivre en lisant des livres. Je vois ta liste de rêves de l'âge. Fataliste de la une image. Tu penses à prendre du style là-bas, c'est de prendre de l'âge. J'aurais aimé voir le palu sévir à Panama, moi. Histoire de voir s'ils agiraient, s'ils sauveraient le pouvoir d'âge. Comment être fier de mon côté néfaste
de supporter le sort qui pèse le poids des cadavres entassés dans une fosse commune. Ils le savent, ils osent quand même piétiner les ossements, les fossiles du passé. La mémoire brille, même là, serrée par leurs mains encrassées. Après avoir pillé le berceau de l'humanité, ainsi que chaque esprit en désaccord, désarmement de chaque souche de rébellion possible. Il faut plus croire au possible, devenir vide, respirer le souffle, souffle coupé.
L'homme blanc a su faire saliver. Maintenant faut se faire à l'idée. C'est niqué par les dégalités. L'avenir est bien balisé. L'homme blanc a su faire saliver. Maintenant faut se faire à l'idée. C'est niqué par les dégalités. L'avenir est bien balisé. L'homme blanc a su faire saliver. Maintenant faut se faire à l'idée. C'est niqué par les dégalités. L'avenir est bien balisé. L'homme blanc a su faire saliver. Maintenant faut se faire à l'idée. C'est niqué par les dégalités. L'avenir est bien balisé.